RCF. Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Place de l'Europe. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée au bilan de la présidence allemande au Conseil de l'Union Européenne, qui se terminera à la fin de l'année 2020. Avec moi ce soir en studio, mes camarades des jeunes européens de Strasbourg, nous retrouvons Gwen Taburet, étudiante en relations internationales. Bonsoir Gwen.
Bonsoir Rémi, bonsoir à tous.
Bienvenue, alors à vos côtés Gwen Ariane Val. Bonsoir Ariane.
Bonsoir Rémi, bonsoir.
Ce soir, vous nous ferez le bilan environnemental de la présidence allemande. Et enfin, Théo Boucard est parmi nous ce soir. Bonsoir Théo.
Bonsoir Rémi, bonsoir à tous.
Vous êtes co-rédacteur en chef du Torillon. Vous avez rencontré Sabine Thillet, présidente à la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale, et André Gattolin, son homologue, mais au Sénat. On aura l'occasion de les écouter tout au long de cette émission. Chaque pays de l'Union européenne préside à tour de rôle le Conseil de l'Union européenne pour une période de 6 mois. Après la Croatie, c'est l'Allemagne qui a assumé cette fonction à partir de juillet 2020. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Gwen Taburet, vous souhaitiez nous recontextualiser le sujet.
Oui Rémi, on parle souvent de la présidence du Conseil de l'Union européenne comme si on en connaissait un rayon sur le sujet et dont on pouvait parler pendant des heures durant nos feux dîners entre amis et autres discussions à la pause café. Et pourtant, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on n'y connaît pas grand-chose. Alors concrètement, c'est quoi la présidence du Conseil de l'Union européenne? Tout d'abord, le Conseil de l'Union européenne réunit les ministres des 27 pays européens. Donc par exemple, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et ses 26 homologues européens se réunissent près d'une centaine de fois dans l'année pour adopter des actes législatifs et coordonner les politiques liées aux questions internationales. Ce Conseil est présidé à tour de rôle par un pays de l'Union, et ce pendant 6 mois. C'est ce qu'on appelle une présidence tournante. Il va établir des compromis pour résoudre des problèmes politiques entre les gouvernements ou entre ces mêmes gouvernements et le Parlement européen. Les ministres du pays qui président le Conseil président alors eux-mêmes leurs réunions avec leurs homologues. Donc par exemple, le ministre de la Santé préside le Conseil de la Santé, le ministre des Sports, celui des Sports, etc.
L'Allemagne préside en ce moment même le Conseil depuis juillet, et ce jusqu'à la fin décembre. Alors est-ce qu'on peut déjà établir un bilan de cette présidence allemande du Conseil?
Oui, alors pour résumer très brièvement les 3 premiers mois de la présidence allemande, diverses priorités étaient sur la table, à commencer par le coronavirus, évidemment, considéré comme la plus grande crise de l'histoire de l'Union européenne par la chancelière allemande Angela Merkel. Donc les 27 se sont alors accordés sur un plan de relance d'une ampleur inédite, 750 milliards d'euros pour la période 2021-2023 et un endettement commun pour l'ensemble de la zone européenne. Réponse exceptionnelle pour circonstances exceptionnelles. Du point de vue de la politique étrangère, les sanctions à l'encontre des proches du président biélorusse Loukachenko a été une priorité allemande qui, on l'espère, portera ses fruits dans les mois à venir.
Et quels sont les dossiers encore sur la table jusqu'à la fin décembre?
Alors le Brexit, qui semble bien parti pour ne pas finir sur un happy end, la politique européenne sur la migration et l'asile, et enfin le Green Deal.
On va y revenir tout à l'heure sur ce fameux pacte vert avec Ariane. Merci Gwen. Mais avant, Théo Boucard, vous avez rencontré Sabine Thillet, présidente à la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale, qui nous dresse un bilan de ce mandat.
Oui, tout à fait Rémi. On a rencontré Sabine Thillet par Skype il y a quelques jours pour qu'elle nous fasse un petit bilan de cette présidence allemande. Alors Sabine Thillet est franco-allemande, donc elle nous a pu nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette présidence, ainsi que le rôle de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale.
Sabine Thillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée de la 5e circonscription d'Indre-et-Loire, présidente de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale et membre de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement du bilan de la présidence allemande du Conseil de l'Union Européenne. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invitée.
Alors justement, une première question volontairement assez large. Quel est le bilan général de la présidence allemande du Conseil, eu égard à l'actualité européenne très chargée de cette année, entre la mise en place du pacte vert, le plan de relance Next Generation EU, le vote du budget et les vicissitudes des négociations?
Je dirais qu'il est encore un petit peu tôt peut-être pour faire un bilan final, parce qu'il reste encore un tout petit peu de temps à la présidence, mais il y a quand même déjà peut-être plusieurs axes qu'on peut retenir. Tout d'abord, il faut peut-être souligner que la présidence allemande a été quand même largement perturbée par la pandémie, et comme perturbée comme le travail de nous tous d'ailleurs. Bon, le gros sujet de la présidence allemande était quand même le CFP et le plan de la relance. Et là, je crois qu'il y a eu beaucoup d'avances de fait, donc, et d'ailleurs le temps presse, hein, parce que nos économies ont besoin du soutien, nous avons besoin d'une visibilité, et évidemment aussi tous les porteurs de projets dans le cadre des programmes européens ont besoin d'une visibilité aussi. Donc le plan de relance a fait l'objet d'un trilogue le 10 novembre, mais vous avez bien suivi dans la presse, malheureusement, ça bloque actuellement sur la conditionnalité avec le respect de l'état de droit. Et c'est la Hongrie et la Pologne s'opposent actuellement assez fortement. Et d'ailleurs, chose un peu surprenante quand même, soutenue par la Slovénie. Hein. Mais il m'est avis quand même, et je crois que la majorité des États membres sont d'accord, on doit être intransigeant sur les valeurs fondamentales sur lesquelles cette Union européenne se construit.
Alors justement, vous parliez au début de travail interparlementaire. Quel est le rôle du tandem franco-allemand dans la préparation de la présidence allemande ainsi que dans sa mise en place effective ?
Disons, il n'y a pas un rôle particulier du tandem franco-allemand quant à la préparation. Cette préparation se fait souvent, commence 2 ans en amont d'une présidence. Mais là, l'Allemagne a beaucoup plus travaillé, comme font d'ailleurs tous les États membres, en coordination avec ce que s'appellent les partenaires de la Troïka. Et donc là, c'est le Portugal et ensuite la Slovénie qui ont les présidences après l'Allemagne et avant la présidence française. Mais on a bien vu qu'il y a une dynamique franco-allemande qui était quand même très importante et qui s'est mise en place particulièrement pour les négociations autour d'un emprunt commun possible qui doit donc soutenir le plan de relance. Et ça, c'était vraiment un accord franco-allemand du mois de mai quand l'Allemagne a montré son accord et a fait… je dirais que c'était un saut qualitatif quand même que l'Allemagne a bien voulu accepter cet emprunt commun qui était absolument pas dans sa perspective avant pour justement soutenir nos économies.
Alors justement, par rapport à l'une des principales réalisations de la présidence allemande, ce plan de relance Next Generation EU, lors du Conseil européen de juillet dernier, comment cet accord est-il perçu dans l'opinion publique allemande ?
Quand je regarde les journaux allemands et quand on regarde certains sondages, en octobre, il y avait par exemple 48% des Allemands qui pense que l'Union européenne devrait avoir plus de moyens financiers pour faire face justement aux conséquences de la pandémie. C'est pas tout à fait la moitié, mais presque. Et c'est quand même important. Et là aussi, on voit un petit peu le changement de paradigme qui s'opère en Allemagne. Quand on pense à la crise de 2008, on était vraiment sur pays vertueux ou non vertueux. Là, je dirais, on joue quelque chose de bien plus important et je crois que l'opinion allemande soutient quand même cette démarche.
D'accord. Et dernière question un peu plus personnelle, puisque vous êtes présidente de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Quel est le rôle de cette commission dans la préparation de la présidence française du Conseil qui est prévue, nous le rappelons, au premier semestre 2022. Est-ce que vous avez également des contacts avec la Commission des Affaires européennes du Bundestag ?
Oui, déjà, on essaye de travailler de plus en plus étroitement ensemble entre nos deux commissions. Vous savez aussi que j'étais un des initiateurs de la mise en place de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Donc, justement, il y a 100 parlementaires, 50 français, 50 allemands qui reflètent la composition de leur parlement, c'est-à-dire tous les groupes politiques qui sont représentés, ainsi que les commissions, et qui doivent développer des méthodes pour pouvoir travailler beaucoup plus étroitement ensemble. Dans ce cadre-là, on a particulièrement les commissions des affaires européennes aussi qui renforce un petit peu leur partenariat. Ça veut dire que quand on n'a pas une réunion à huis clos, nos amis allemands, nos collègues allemands peuvent assister à nos réunions de commission et nous pouvons également assister à Berlin à la réunion. Malheureusement, la pandémie ne nous a pas encore permis de vraiment mettre ça en œuvre. N'empêche, le 22 juillet, on a eu un collègue allemand qui a déjà assisté à la présentation d'un rapport sur la politique européenne du voisinage pour se rendre compte un petit peu aussi de nos avis. Et je crois que c'est très, très important, même globalement au niveau européen, qu'on se connaisse mieux. On a également, entre nos deux commissions, réveiller par exemple le triangle de Weimar au niveau parlementaire qui s'était un peu endormi en 2012, et on a fait plusieurs réunions déjà aussi avec nos collègues polonais, et c'est des discussions assez franches et qui permettent aussi de passer des messages. Et on a initié assez récemment, début 2019 aussi, un triangle qu'on appelle les triangles de Monte Titerio avec nos amis italiens, parce que là aussi, grand État fondateur de l'Union européenne, et surtout l'Italie, c'est quand même un des États, après le Brexit, un des États majeurs aussi de l'Union européenne, vu de sa population et son poids économique. Il est hyper important, vu les divergences aussi ces dernières années, que ce soit entre les Italiens et les Allemands, ou aussi entre les Italiens et les Français. On a grandement besoin là de renforcer le dialogue, ce qu'on essaye aussi de faire d'une manière interparlementaire.
Merci beaucoup Sabine Tillet d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup à vous.
Place de l'Europe, RCF Alsace.
Vous venez d'entendre Sabine Tillet qui a répondu aux questions de Théo Boucard. Alors Théo, justement, le plan de relance face au coronavirus semble être le principal résultat de la présidence allemande du Conseil. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce plan ?
Oui Rémi, le plan de relance Next Generation EU, adossé au budget européen, est né, nous le rappelons, d'une première initiative franco-allemande formulée par Emmanuel Macron et Angela Merkel le 18 mai dernier. Cette initiative prenait la forme d'un plan de relance d'une valeur de 500 milliards d'euros, mobilisé à partir d'un emprunt commun à toute l'Union européenne et redistribué sous forme de subventions à destination des régions les plus touchées par la pandémie de Covid-19. Emprunt commun et transfert budgétaire, voilà donc deux innovations majeures dans l'histoire de l'intégration européenne, auxquelles l'Allemagne s'était pourtant toujours farouchement opposée auparavant. 9 jours après l'annonce du plan franco-allemand, la Commission européenne a présenté sa proposition, intitulée Next Generation EU, d'un montant de 750 milliards d'euros, soit 500 milliards de dotations budgétaires et 250 milliards de prêts remboursables. Un ajout conforme aux demandes de certains pays du nord de l'Europe, regroupés dans le fameux groupe des frugaux et partisans d'une discipline budgétaire plus stricte dans la réponse économique face à la pandémie. Finalement, une grosse partie de l'élaboration du plan Next Generation EU s'est faite avant le début de la présidence allemande, alors que c'était la Croatie qui assurait son mandat.
Oui, mais le dénouement de ce plan s'est bel et bien déroulé quelques semaines seulement après le début de la présidence allemande.
Effectivement, moins de 3 semaines après le début de cette présidence, le Conseil européen censé discuter du plan s'est ouvert le 17 juillet. Ce qui ne devait être qu'une formalité s'est transformé en combat larvé entre la France, l'Allemagne et les pays du sud de l'Europe d'une part, et le club de frugaux, emmené par les Pays-Bas d'autre part. Le tout plus ou moins perturbé par les groupes du pays de Visegrad, donc en Europe centrale, hostile au fait que le respect de l'état de droit fasse partie des conditions pour bénéficier de ce plan. Finalement, 4 jours et 4 nuits auront été nécessaires pour trouver un accord. La somme de 750 milliards d'euros est restée intouchée, certes, mais la part des dotations budgétaires est passée de 500 à 390 milliards d'euros. Parallèlement, les négociations budgétaires pour le plan financier pluriannuel, le budget européen établi sur 7 ans, a continué de battre son plein avec une proposition autour de 1075 milliards d'euros avancée par la Commission européenne et le Conseil européen. Cela peut sembler considérable, en réalité ce n'est rien, car il s'agit de 1075 milliards d'euros sur 7 ans, et rapporté à la richesse annuelle produite par l'Union européenne, c'est assez famélique.
Actuellement, où en sommes-nous des négociations, très concrètement ?
Alors vous pensiez que le tandem franco-allemand allait encore se chamailler avec le groupe des frugaux ? Eh bien non. Le 16 novembre dernier, ce sont la Pologne et la Hongrie qui ont mis leur veto à la proposition du budget européen. Les deux pays, connus pour leurs dérives dites illibérales, refusent en effet que le respect de l'état de droit et des valeurs de l'Union européenne soit une condition sine qua non au versement d'aides et des crédits budgétaires de l'Union. Alors à l'heure où nous enregistrons cette émission, aucun progrès ne semble se dessiner à l'horizon. Budapest et Varsovie persistent et signent dans leur obstruction. Le temps presse pourtant, car le nouveau budget européen est censé se mettre en place le 1er janvier prochain.
Affaire à suivre donc. Merci Théo Boucard. Nous allons faire une pause musicale. C'est une chanson de 1964 qui symbolise la réconciliation franco-allemande. On écoute Barbara Göttingen.
Ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence. À Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Bonsoir à vous, nous poursuivons notre émission consacrée au bilan de la présidence allemande au Conseil de l'Union Européenne. Théo Boucard, vous avez rencontré un expert, il s'agit de André Gattolin, vice-président à la Commission des Affaires Européennes au Sénat. Il nous apporte son regard sur le bilan climatique, énergétique et environnemental de cette présidence.
La présidence en elle-même, elle s'inscrit, comme toujours dans les présidences tournantes, dans une continuité avec l'État membre qui préside, qui précède et celui qui succède. Tout ça s'inscrit plus généralement dans la ligne qui a été définie par la nouvelle commission présidée par Ursula von der Leyen, qui a posé effectivement les objectifs climatiques et énergétiques comme une des priorités de l'action de la commission, mais aussi du Parlement européen durant les cinq années 2019-2024. Donc très clairement, que s'est-il produit au moment de cette présidence? D'abord, on a eu la crise sanitaire du Covid qui a quand même bousculé l'ordre du jour. Il y a eu l'initiative franco-allemande pour un plan de relance de 500 milliards. Alors, c'est vrai que tout ça est extrêmement important puisque il y a la volonté de créer un plan climat-énergie qui est actuellement discuté, qui devrait faire l'objet d'une loi européenne, donc sur le climat, qui devrait être présentée courant premier semestre 2021, donc qui va entériner notamment un renforcement important des objectifs en matière de lutte climatique. Je rappelle que l'Union européenne, qui est le troisième émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis, s'était engagée pleinement dans les accords de Paris sur le climat et qu'on s'était fixé un objectif de réduction de 40% des gaz à effet de serre d'ici à 2030. Là, l'idée est d'accroître encore plus fortement cette exigence à travers cette loi européenne, donc que les Allemands, notamment en tant que président, mais aussi la France porte, pour atteindre 55% de réduction des gaz à effet de serre au même horizon et une neutralité carbone à horizon 2050. C'est extrêmement ambitieux. On peut se poser quand même certaines questions parce que si on regarde sur la période précédente, l'Union européenne a plus ou moins respecté ses objectifs qui étaient naturellement bien moins importants de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais parce qu'il y a un mais, nous sommes trouvés dans une situation de crise économique suite à la crise financière de 2008-2009 qui a considérablement réduit la croissance dans l'Union européenne, en particulier dans la zone euro, donc dans ces pays les plus puissants, qui ont contribuer à cette réduction des gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on est dans un effet mécanique. Plus la croissance est faible, plus évidemment les gaz à effet de serre émis sont moins nombreux. Le point fort du pacte vert qui encadre le cadre financier pluriannuel, mais qui encadre aussi le fameux plan de relance de 750 milliards d'euros, c'est que pour une fois, on met des moyens pour y arriver. On n'a pas simplement des objectifs théoriques sur les trois critères, énergie renouvelable, réduction des gaz à effet de serre et économie d'énergie, mais on établit des plans réels, concrets, pour des financements importants dans ce domaine-là. Mais quand on prend l'ensemble du paquet qu'il faut mettre en place pour procéder à cette transition énergétique vers, je dirais, un ralentissement du réchauffement climatique, il y a des trous dans la raquette. Pour moi, le principal trou dans la raquette, c'est l'union de l'énergie. Parce que, bien sûr, ça fait partie des dossiers qui sont sur la table, mais chacun est encore souverain dans les États membres sur sa manière d'organiser son mix énergétique. On voit la France appuie beaucoup sur le nucléaire. C'est vrai que le nucléaire est beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre que d'autres énergies, mais il a aussi ses inconvénients. Et puis, chacun des pays a ses propres choix. Et là, c'est là où on peut critiquer l'Allemagne, c'est que tout en affichant un volontarisme écolo, l'Allemagne aujourd'hui se bat pour le doublement du gazéoduc qui vient de Russie, qui passe par le golfe de Finlande, c'était Nord Stream 1. On est en train de faire un Nord Stream 2 qui va accroître le débit de gaz venu de Russie vers l'Union européenne. Et quand on regarde le volume de gaz qui peut circuler dans Nord Stream 2, c'est au-dessus des objectifs de réduction de consommation de l'Union européenne en matière de gaz à horizon 2035. Les intérêts allemands sont importants d'un point de vue économique, mais d'un point de vue politique. Madame Merkel est dans, malgré sa popularité, est dans un système de grande coalition avec les sociaux-démocrates. Donc aujourd'hui, du côté français et au niveau de la Commission, il y a la volonté d'arrêter Nord Stream 2. Angela Merkel a commencé il y a quelques semaines à envisager la réduction, voire l'annulation de Nord Stream 2. Mais elle se met dans une position politique dans son pays. Là encore, rendre compatible l'intérêt général européen, le choix de politique européenne au long cours structurante et déterminante pour protéger notre Europe et notre planète se heurte très souvent aux intérêts et aux politiques nationales avec des contradictions classiques. Donc, difficile de dire que la présidence allemande qui s'achèvera à la fin décembre de cette année a été un échec parce que énormément de choses se sont produites, dont ce fameux plan de relance, dont la conclusion du cadre financier pluriannuel. Mais il ne faut pas angéliser la place et le rôle de l'Allemagne dans l'Europe.
Place de l'Europe, RCF Alsace.
Vous venez d'écouter André Gattolin, vice-président à la Commission des affaires européennes au Sénat. Alors Ariane, vous nous en dites un peu plus sur le bilan environnemental de la présidence allemande avec notamment le Green Deal.
C'est exact. Présenté par la Commission européenne en décembre 2019, le Green Deal se veut un plan d'action ambitieux pour le climat. Il propose principalement d'atteindre pour l'Europe la neutralité carbone d'ici à 2050, c'est-à-dire que toutes les émissions carbonées soient compensées et qu'ainsi l'Europe ne soit plus émettrice de gaz à effet de serre. Depuis 2019 cependant, la crise du coronavirus s'est imposée comme sujet de débat, au risque d'éclipser toute considération environnementale.
Comment la présidence allemande du Conseil de l'Europe, en place depuis juillet, soit en pleine crise sanitaire, s'est-elle engagée sur le plan environnemental ?
Le coronavirus a effectivement doublé l'environnement sur le programme de la présidence allemande. Pour autant, celle-ci a affirmé son intention de mettre en œuvre certains objectifs du Green Deal, par exemple la protection de la biodiversité ou la fondation d'une véritable économie circulaire avec moins de pertes et plus de réutilisation.
Mais qu'en est-il des mesures effectivement prises depuis le début de la présidence allemande ?
Eh bien, depuis juillet, la présidence allemande a surtout eu le mérite d'obtenir le consensus des autres pays sur les objectifs environnementaux. Les pays membres se sont ainsi mis d'accord sur l'élaboration d'un label européen attestant du bien-être animal, sur le respect de quotas de pêche pour la mer Baltique ou encore sur le bien fondé d'une norme contraignante de protection environnementale dans le domaine de l'agriculture. Il semble donc que pour l'instant, les succès de la présidence allemande en matière d'environnement demeurent diplomatiques. Cela dit, les considérations écologiques semblent avoir migré jusqu'à l'économie, puisque l'on y essaie de créer un marché pour l'hydrogène vert, un gaz non polluant.
Pour autant, l'écologie est-elle la priorité ?
Ce n'est pas certain, puisque la présidence allemande affiche clairement dans son programme la volonté d'entrer dans l'ère de la transition numérique et écologique. Or, le numérique n'est pas compatible avec de véritables objectifs écologiques englobants, pas seulement focalisés sur l'émission de gaz à effet de serre. En effet, un déploiement accru du numérique signifie au minimum une hausse importante de la consommation d'énergie. L'erreur serait alors de prendre les outils numériques pour la panacée écologique, alors qu'eux-mêmes font partie du problème. Ainsi, s'il faut encourager les initiatives écologiques de la présidence allemande, il faut par ailleurs rester vigilant à ce qu'elle, et elle seule, conserve la priorité.
Merci beaucoup Ariane. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup Théo Boucard, Ariane Val et Gwen Taburet de nous avoir fait un bilan de la présidence allemande au Conseil de l'Union Européenne. Nous remercions également Sabine Tillet et André Gattolin d'avoir répondu à nos questions. Cette émission de Place de l'Europe vous était présentée par l'association transpartisane des jeunes européens de Strasbourg. Je vous invite à consulter notre site internet jeunes-européens-strasbourg.eu pour tout savoir sur nos activités et nos événements à venir. Votre prochain numéro de Place de l'Europe se tiendra lundi prochain. Quant à nous, on se retrouve en janvier. Merci beaucoup pour votre écoute et très bonne soirée à vous.